C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Roselyne.
Alors, il était sur le peloton d'exécution, mis en joue par les oppositions. Ils ont tiré. Barnier est tombé hier soir, emportant avec lui son gouvernement et son budget. 331 voix comme 331 balles qui vont obliger Emmanuel Macron à retrouver un nouveau Premier ministre, mais dans une assemblée qui sera identique. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ceux de la dissolution qui l'a plongé dans cette situation. Marine Le Pen a appuyé sur la gâchette et avec la complicité du NFP, Michel Barnier serait encore à Matignon. Mais la députée RN n'a pas résisté à l'odeur du canon, espérant trouver un bénéfice électoral tôt ou tard. Aujourd'hui, que reste-t-il des ruines ? Un possible accord de non-censure avec le PS et les écologistes ? Un esprit de compromis jusqu'alors jamais trouvé ? Comment le président va-t-il sortir de cette nasse et vers qui et vers quelle famille politique va-t-il se tourner? Le mystère reste épais à cette heure. On en parle avec nos invités. Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur général Opinion et auteur du livre « Parlons-nous la même langue » aux éditions de l'Aube. Merci à vous d'être là. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Rossine.
Et Michel Cotard, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur de d'abord d'un livre, « Les derniers grands » chez Plon. Et puis surtout, auteur avec Patrice Duhamel, Jean Garrigue et Pauline Palier d'un documentaire passionnant sur la dissolution avec le récit des principaux acteurs de la scène politique, documentaire diffusé ce soir sur France 2 à 22h15. Et en fin d'émission, nous recevrons, bien sûr, comme chaque semaine, Véronique Reistoul qui a scruté les réseaux sociaux. Voilà, donc Michel Barnier savait que son temps était compté, mais il se prenait à rêver un sursaut du côté des socialistes, qui évidemment n'est jamais venu. Après avoir succombé aux demandes de Marine Le Pen, il a succombé tout court. Qu'a-t-il raté, Michel Barnier ?
On peut faire 1000 procès à Michel Barnier. On peut notamment rappeler qu'il avait offert sur un plateau à Laurent Wauquiez une concession majeure sur les retraites. On peut aussi invoquer le fait qu'au point de départ, il n'avait pas organisé les choses, c'est-à-dire qu'il est parti comme cela, sans préalable, sans consulter suffisamment avant, pour qu'au moins il y ait un consensus sur quelques mesures importantes qu'il fallait à tout prix prendre et qu'il aurait pu négocier avant d'entrer vraiment en fonction. Mais enfin, tout ça, c'est relatif par rapport au fait que, de toute façon, il était condamné par Marine Le Pen. Rappelez-vous, au point de départ, on a Marine Le Pen qui lui délivre une sorte de sauf-conduit, et puis qui, de fil en aiguille, fait monter les enchères. On l'avait dit ici plusieurs fois, mais le déclic et le point de passage de Marine Le Pen d'une attitude de recherche de la responsabilité, recherche de la légitimité, etc., à une attitude classique. Où on détruit, on vote contre, etc., à cause de l'histoire des réquisitions du parquet contre elle.
Oui.
Et que ça a été un tournant pour elle, et qu'elle a changé d'attitude à partir de ce moment-là. Et on s'est vite rendu compte, quand Michel Barnier faisait ses allers-retours entre elle et sa copie, que de toute façon, s'il acceptait X, elle demanderait Y, et s'il acceptait X et Y, elle demanderait Z, et que c'était sans fin. Donc, il était de toute façon condamné par le Rassemblement National. Et comme il l'était par avance par le Bloc de gauche, il n'y avait pas d'issue.
Catherine, sa mission était de toute façon impossible et vouée à l'échec ?
Je le crois. Il a été nommé dans des conditions que l'on sait qui sont très difficiles. Il était très peu soutenu par un tout petit groupe à l'Assemblée nationale. Les macronistes avaient comme mission qu'ils s'étaient assignés à eux-mêmes de défendre tout le bilan et rien que le bilan d'Emmanuel Macron. Et il n'est pas terrible ce bilan et les conditions d'élaboration du budget faisaient que ce budget forcément serait impopulaire. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a une concomitance avec le procès de Marine Le Pen. Moi, je ne crois pas que ce soit la raison principale du changement d'attitude de Marine Le Pen, c'est-à-dire le passage de la cravate, la stratégie de la cravate à la stratégie de l'opposition. C'est qu'en fait, je pense qu'elle n'avait aucune raison d'endosser les conséquences d'une politique qu'elle n'a jamais soutenue. Elle n'a jamais soutenu Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est son opposant. Elle a été contre lui à 2 reprises et elle n'est pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Donc je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen se serait mise à dos les électeurs et ses électeurs pour porter un budget qui n'était pas le sien.
Michel Cotta, est-ce qu'elle portera la responsabilité tôt ou tard de cette motion de censure et que ça peut éventuellement lui coller au basque?
Ça dépend de la responsabilité auprès de ses militants et la responsabilité auprès des Français. Déjà, c'est différent. Moi, je crois que ce qu'il a encore plus sans doute déterminé que les réquisitions, qui effectivement étaient importantes, il suffisait de voir son visage pour l'avoir accablé, mais c'est aussi le Front républicain. Elle s'est vue arriver en tête au premier tour, elle s'est dit, ça y est, le deuxième est dans la poche, et à ce moment-là, il y avait un Front républicain. Donc elle s'est dit, bon, bah, puisqu'il y a un Front républicain contre moi, autant revenir à Jean-Marie Le Pen. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, dans sa présentation, d'un seul coup, on a trouvé quelqu'un qui a passé des années à se dédiaboliser et qui, d'un seul coup, vocifère dans les travées,
avec le NFP.
Fait semblant de rigoler, ce que faisait son père quand il était à la même place. Donc, il y a vraiment eu un changement, un retour aux sources, si j'ose dire, de Marine Le Pen.
Comment, d'après vous, Frédéric Dabi, vous qui sondez l'opinion, les électeurs et les sympathisants de Marine Le Pen vivent cette motion de censure?
Alors, vous avez raison, Roselyne, de dissocier les uns des autres. On est dans un moment historique. Première fois depuis Georges Pompidou qu'un Premier ministre est renversé. La France va connaître en 2024 sans doute 4 premiers ministres. Et la durée de vie des premiers ministres diminue comme peau de chagrin depuis le début du quinquennat. 3 ans Édouard Philippe, 2 ans Jean Castex, 1 an et demi Madame Borne, 8 mois Attal, 3 mois. C'est une sorte de décrescendo assez sidérant. Hein. Raymond Barre, 5 ans. François Fillon, 5 ans. Pompidou, 6 ans. Je reviens sur votre question.
Non, mais
je pense que la conséquence à court terme de la période, ça sera une sorte de tous perdants de la part des Français qui n'apprécient pas, à mon avis, d'être de nouveau sous tension, de revenir dans une logique de choc, ce qui pouvait être quelque chose d'absolument rassurant. Nos institutions, on voit la fragilité ontologique depuis cette dissolution. Tout nous ramène à la dissolution du 9 juin et ce qui est sorti des urnes du 30 juin au 7 juillet. S'agissant de Marine Le Pen, il y a 2 niveaux d'analyse. Auprès de ses sympathisants, c'est vrai qu'on en a trouvé dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, 62% favorable à une motion de censure. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est devenu.
Il n'y avait pas encore les arguments à l'époque
que
le gouvernement martelait.
Tout à fait. Auprès des sympathisants, c'est même peut-être encore plus. Finalement, ce budget était jugé injuste. Il y avait des lignes rouges pour reprendre les termes de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, le RN n'est plus seulement un parti de sympathisants. C'est devenu un parti de masse. Quid de ces retraités qui ont voté pour la première fois pour le RN aux élections européennes? Je rappelle que Jordan Bardella est arrivé en tête chez les retraités. Quid de ces cadres supérieurs, de ces catégories sociales aisées, de ces entrepreneurs qui sont sans doute sur une logique de stabilité et qui voient peut-être, qui vont soupçonner Marine Le Pen de ne pas vouloir le pouvoir pour changer la vie, comme on dit en politique, mais c'était un slogan du PS des années 70, mais pour finalement être rangé dans le même sac que la France insoumise, que Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que LFI, c'est pas n'importe quoi en France. C'est le parti le plus rejeté par les Français. Oui. 83% de mauvaises opinions. Donc, 1, perte de respectabilité. 2, perte de la logique de distinction qui lui a fait tant de bien depuis 2017 entre les insoumis, entre Mélenchon et elle. Et une question, non pas chez ses sympathisants, chez ses militants, mais auprès des franges qui font que le RN, avec un cliquet, est passé de 7 millions à 11 millions de personnes, qui vont sans doute être troublés. Et on n'a pas fini de voir des conséquences sur la fiscalité. Enfin, en tout cas, on entre à minima dans une période d'incertitude que ces nouveaux électeurs n'aimeront pas.
Marine Le Pen a montré là, Jean-Marie, son vrai visage.
Oui, elle a montré son vrai visage.
Ce que disait tout à l'heure Michel, très juste. Oui. C'est-à-dire qu'elle reprend la stratégie du paternel.
C'est vrai qu'il y a une similitude, y compris dans la gestuelle et dans l'attitude. Y compris quand elle écoute les autres orateurs, les grimaces qu'elle fait, les mimiques.
Oui, ce qui rappelait Michel.
C'est vraiment du Jean-Marie Le Pen dans le texte. Hein. C'est vraiment fascinant. Non, ce qui est sidérant, c'est la façon dont elle domine le paysage politique. Parce que là, elle a recommencé à nous dire « Ah ben, je laisserai le nouveau gouvernement, je lui laisserai quelques temps pour gouverner. » Combien de temps, on ne sait pas, ce sera son bon vouloir à elle. Et donc, tout le monde semble se plier maintenant à ses désirs. Sauf qu'elle change aussi d'image, parce que, qu'elle le veuille ou non, le parti lepéniste est un parti d'ordre. Et là, elle est facteur de désordre. Et donc ça, elle aura du mal, d'une certaine façon, à ne pas le payer à un moment ou à un autre. Et donc c'est ça qui est frappant. Mais ce qui est frappant aussi, c'est la façon avec laquelle tout le monde se plie, au fond, à cette façon d'être qui consiste à dire « Oui, je vais le laisser gouverner quelque temps, et puis après je déciderai autrement. » Et tout le monde semble accepter
ça. Elle s'enivre de ses pouvoirs de nuisance.
À commencer par la gauche, qui mêle ses voix à celle de Marine Le Pen. Donc là, voilà des gens qui viennent de faire un front républicain et qui, à peine le front républicain terminé, donnent la main à Marine Le Pen. Je veux dire, c'est vraiment le grand n'importe quoi.
Catherine, j'ai une question à vous poser, parce qu'on avance un petit peu, le temps file. Je voudrais qu'on écoute Michel Barnier hier, qui répond assez sévèrement à Boris Vallaud, donc le patron à l'Assemblée nationale des socialistes. On comprend que ça partait pas sur des bonnes bases. Écoutez-le.
Où est le monsieur le président Vallaud, la morale? Où est l'action? Lorsque, arrivant à l'hôtel Matignon, il y a moins de 3 mois, au lendemain de ma nomination, je vous ai appelé et que vous m'avez dit qu'en toutes circonstances, et avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je présente le programme du gouvernement, avant même que je forme le gouvernement, vous me disiez, nous allons voter la censure.
Voilà, donc en fait, tout le monde trouve des arguments aujourd'hui pour voter cette censure, mais tout le monde savait qu'il allait la voter.
Oui, mais en fait, là, il fait référence à la censure qui a fait suite à la déclaration de politique générale dans laquelle toute la gauche, le Nouveau Front Populaire, avait déclaré qu'il voterait la censure au préalable parce qu'il contestait le fait que ce soit Barnier et pas Lucie Castet qui ait été nommée. Donc c'était, je dirais, de principe. C'était une motion de censure de principe. Je voulais juste dire un petit mot sur notre discussion à propos de Marine Le Pen. Je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup de Français veulent que ça change.
En touche, là.
Je vais revenir, mais ce que je veux juste dire, c'est que beaucoup de Français veulent que ça change et sont vraiment pas contents. Ce que je veux dire, donc Marine Le Pen, en reprenant une posture d'opposante, réendosse d'une certaine manière, réassume, reprend en charge. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle propose.
Ce que je veux dire, c'est que ce terrain-là est déjà occupé par Jean-Luc Mélenchon et les siens.
C'est possible, mais moi, ce que je pense, c'est qu'en vérité, il y a une majorité de Français qui n'en ont vraiment ras-le-bol. Alors, et donc, elle est en train d'essayer de prendre le truc. Et c'est ça qu'elle fait en reprenant Jean-Marie Le Pen. Et c'est, j'ouvre une parenthèse et je la ferme, la discussion qui est en arrière-plan sur Jordan Bardella. Est-ce que c'est l'union des droites ou est-ce qu'on est un parti d'opposition?
Je vais nuancer un tout petit peu ras-le-bol, colère. Je vous entends, Catherine. Moi, ce que je vois dans nos enquêtes, c'est également une posture de retrait, d'indifférence des Français. Jamais vu. J'ai parlé dans Le Monde d'éclipse du politique. Jamais le rapport des Français aux élus nationaux, à contrario des élus locaux qui sont complètement valorisés, choyés, qui bénéficient d'un crédit de confiance, a été aussi terrible. Quand je regarde la part des Français qui spontanément parlaient des discussions du budget à l'Assemblée, la motion de censure vient de là, 4%. Vous vous rendez compte d'où on est depuis le 7 juillet où les Français ont vu cette éclipse du politique, s'en sont contentés. Maintenant, ils rentrent dans le dur avec cette motion de censure et ce renversement du gouvernement. Et peut-être l'indifférence de retrait peut se muer, comme vous le dites, en colère.
Michel.
Ce que je pense, c'est quand même que la puissance de Marine Le Pen se nourrit de la puissance peut-être négative de Jean-Marie Mélenchon. C'est évident qu'elle n'aurait pas la même façon de dire « Oui, je ne sais pas, je verrai, peut-être que je laisserai passer » si elle ne savait pas par ailleurs qu'il y avait 30% des gens dans l'Assemblée nationale qui lui donnaient raison sur ce point, faute de lui donner raison sur les autres. Donc c'est vraiment, on a effectivement un plan qu'on n'a jamais connu dans notre vie, comment l'extrême droite se développe avec l'appui implicite ou pas, de l'extrême gauche et surtout de Jean-Luc Mélenchon. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux ont la même intention et la même volonté, être face à face À l'élection présidentielle qui vient.
Ou même anticipée, mais ça...
Ou même anticipée, mais peut-être...
C'est peu probable, a priori.
C'est peu probable. Le contraire est peu probable aussi, hein, franchement.
Oui, oui.
Enfin bon, en attendant, on voit très bien leur stratégie, et leur stratégie passe par l'écrasement de tout ce qui est au milieu.
Ouais. Alors, je voudrais aussi vous poser une question. C'est la stratégie du Parti Socialiste, de la gauche. On va d'abord écouter Gabriel Attal, qui a tensé... un peu violemment hier, les socialistes.
On peut s'opposer sans tout gâcher. On peut s'opposer sans censurer. C'est à cela que nous disons affranchissez-vous. Affranchissez-vous. Nous préférons voir le courage de ces quelques députés de gauche, de ces députés indépendants qui ont refusé de signer et d'apporter leur voix à la motion de censure signée par Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, aujourd'hui, Olivier Faure, Michel, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et Marine Tondelier, donc chef des écologistes, demandent à voir Emmanuel Macron et défendent visiblement l'idée d'un accord de non-censure. Alors, est-ce qu'un esprit de compromis est-il en train de faire son chemin ou vous n'y croyez pas ?
D'abord, il est quand même un peu logique quand on voit que François Hollande vote avec Jean-Luc Mélenchon, on se prend la tête entre deux mains, oui, en disant exactement. Ça ne va pas. Bon. Et ils le savent eux-mêmes. Beaucoup ont voté la motion de censure en disant on ne peut pas faire autrement parce que sinon on va se faire battre au prochain élection. Mais on ne pense pas nécessaire de voter avec l'extrême gauche. Bon. Donc ça a sans doute créé quand même dans leur tête une interrogation. On avait une interrogation, c'est jusqu'à quand on va rester les pieds et poings liés derrière Jean-Luc Mélenchon. D'autant que, on rappelle ça, mais c'est vrai qu'on a vu hier Jean-Luc Mélenchon un peu moqueur, assister dans les tribunes au discours et de Marine Le Pen et de son...
Coquerel,
qui a ouvert le feu, qui est un formidable, et puis s'en aller dès que l'orateur socialiste arrivait. Ce qui est une forme de mépris absolument incroyable, et ce mépris n'est pas passé inaperçu, et peut-être que oui, il est temps pour qu'ils essayent de faire un mouvement. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un pacte de non-dissolution? Ça, je ne sais pas comment ça se signe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on disait, on met 5 principes sur lesquels on tombe d'accord et on applique les 5 principes? Mais alors, ça veut dire qu'on se met autour d'une table un peu sérieusement.
Est-ce que, Frédéric, c'est les Français veulent cet esprit de compromis?
C'est clair que oui. Les Français veulent qu'on respecte l'esprit et la lettre du politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est en... contrepartie du vote, les politiques à l'échelle nationale agissent, transforment le pays. Je reviens sur cette phrase des années 70, change la vie des Français. On n'y est pas. Quand on regarde les choses, et on les regarde depuis le 7 juillet au soir, c'est absolument ingouvernable. Nous avons une assemblée avec 3 blocs qui sont, quand on recule de quelques mètres, à peu près équivalents à 30-40 sièges, le bloc NFP, le bloc central et le bloc RN. L'alliance bloc central LR, ce socle commun, a été un échec. Et c'est vrai que Michel Barnier n'a pas été vraiment soutenu par ce socle commun, ça l'a perdu. Aujourd'hui, ce qui pourrait permettre d'arriver à un début de majorité, ou en tout cas sur des textes, c'est une dislocation du Front populaire et des socialistes qui quitteraient l'emprise de la France insoumise, qui, sur le plan électoral à l'échelle nationale, n'est pas vraiment gagnant. Ça fait 7 ans que la gauche au national tourne autour, étant calminée autour de 30%, que ce soit une présidentielle, une législative. Rappelons qu'en 2012, au présidentiel, l'addition Hollande-Mélenchon, Eva Joly avait fait 42%, au législatif 45%. Oui. On voit que c'est un échec. Maintenant, les leaders socialistes ont en tête une très probable dissolution à partir du 8 juillet et une élection à la rentrée. Et c'est vrai que si LFI joue la politique de la terre brûlée, le PS peut perdre énormément de sièges. Donc on est sur une concordance d'absence de compromis, de mise à distance de l'intérêt général, et pour l'instant, la Chambre, on en est toujours à ce 7 juillet au soir, qui fait que je ne vais pas être grossier, mais c'est très compliqué de trouver un compromis et une majorité qui pourrait revenir, permettre de revenir à l'épure traditionnelle de la Ve République. On n'y est absolument pas.
Je reviens sur un point qui était évoqué tout à l'heure et que vous avez évoqué, Roselyne, qui est celui de de la façon dont les socialistes veulent absolument être reçus à l'Élysée pour dire au président qui il doit nommer, en fait.
Oui. Bon.
Or là, c'est une des manifestations de la crise dans laquelle nous sommes, qui est aussi une grave crise institutionnelle. Parce que ce qui est en jeu là, c'est une des prérogatives absolues du chef de l'État. Il est le seul à pouvoir nommer un Premier ministre. Personne n'a à faire pression sur lui pour qu'il nomme un Premier ministre. Or, tout le jeu, là, en l'espèce des socialistes, c'est un travail de sape de l'institution présidentielle, en disant, attention, on vient... Et s'il ne s'y plie pas, on va voter une nouvelle fois la censure. Donc c'est vraiment... Et c'est un des gros enjeux de la période, c'est la stabilité, l'essence même de nos institutions, qui est mise en péril par le comportement des acteurs et le comportement à l'Assemblée nationale. Quand Boris Vallaud, à la tribune, dit « le pouvoir, c'est ici », alors, sans doute, il y a des éléments...
Au Parlement, il a raison.
Au Parlement, momentanément, mais tout l'esprit de la cinquième, c'est au contraire de préserver l'exécutif et de faire en sorte que la France puisse continuer d'être gouvernée malgré les partis, malgré le jeu des partis. On est revenu là, au point de départ, d'avant la Constitution, d'une certaine façon. Et donc, vous y ajoutez à cela deux des principaux leaders, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui demandent le départ du président... Et vous avez les fondements d'une crise institutionnelle majeure.
Alors Catherine, parce que je voudrais qu'on parle du documentaire de Michel ce soir, qui passe ce soir sur France 2. Mais peut-être un mot pour conclure. Oui, sur la gauche.
Juste un petit mot sur la gauche. Moi, je crois que le désaccord qui se manifeste est très profond entre Jean-Luc Mélenchon qui pense que, d'une certaine manière, comme Marine Le Pen, qu'il doit incarner la colère, la pureté de la revendication initiale, et les socialistes et les écologistes et les communistes qui pensent que s'ils continuent de jouer l'inutilité politique, ils le paieront dans les urnes. Et Jean-Luc Mélenchon l'avait compris en son temps où il pensait qu'il fallait prouver qu'on pouvait gagner et qu'on pouvait être utile. Là, il semble qu'il vise autre chose. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui les divise sur l'efficacité. Moi, je n'interprète pas la demande des socialistes d'être reçus à l'Élysée comme une pression, mais plutôt comme le signe qu'on ne peut pas juste accélérer le tempo pour continuer.
Toutes leurs paroles, tout ce qui précède.
C'est aussi peut-être une manifestation d'éloignement quand même aussi de Jean-Luc Mélenchon.
C'est certain.
Ils sont éloignés.
Alors Michel, ce soir, je vous invite tous à regarder, si vous le pouvez, ce documentaire d'1h25, je crois, La dissolution, histoire d'un séisme politique. Vous avez tous les acteurs politiques qui comptent. Vous avez le président du Conseil constitutionnel.
Non, je ne suis pas seul à avoir fait le...
Non, alors avec Patrice Duhamel, avec Jean Garrigue et avec Pauline Palier. Très bon documentaire. Et on y voit un peu tous les acteurs avoir... dans le fond, une forme de sidération face à cette dissolution. Mais j'aimerais quand même qu'on écoute votre intervention. D'ailleurs, lorsque vous posez la question, vous êtes allé interviewer François Hollande et vous l'interrogez donc sur cette dissolution. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ce choix? On l'écoute.
Bon, mais alors, qu'est-ce qui a pu lui donner cette idée-là, à votre avis, vous qui le connaissez bien?
Non, je ne connais pas bien, ou pas suffisamment bien, Emmanuel Macron, sinon peut-être ne serait-il pas président. Je m'en serais gardé davantage que je ne l'ai fait lorsque j'étais moi-même chef de l'État. Donc il a dû penser que finalement sa bonne étoile pouvait le poursuivre.
Allez, deux dernières questions. C'est pas donner les clés du pouvoir, c'est permettre de gouverner à des forces politiques qui auront été choisies par les Françaises et les Français. Vous êtes tout de même des drôles à penser que ce serait forcément l'extrême droite.
Prendre une branlée électorale comme il l'a prise et dire « bon bah on y retourne », ah mais les Français ont dit « mais oui, on va y retourner sans problème ». C'était pas à son avantage. Or, il fait toujours les choses à son avantage, Emmanuel Macron.
Le péché originel de tout ça, c'est 2022. C'est la réélection de Macron sans majorité absolue.
Voilà Michel, donc un extrait. Je voudrais quand même m'arrêter sur la réaction de François Hollande, qui est assez drôle. On y décrypte peu d'aménité et surtout une vision par rapport à Emmanuel Macron d'un homme assez imprévisible en quelque sorte.
On y découvre surtout l'image d'un homme qui l'a trahi. Oui. C'est ce qu'il veut dire quand il dit si je m'en suis pas assez. Je sais que beaucoup de gens lui ont dit dans les années précédentes que attention, attention à Emmanuel Macron, attention, il fait un meeting par-ci, il voit d'autres gens par-là. Et François Hollande était le premier à dire pas de problème, il prépare mon terrain. Bon, il a été en effet trahi par Emmanuel Macron, et il le dit, je trouve, d'une manière assez drôle,
oui, c'est assez
drôle. Qui lui ressemble et qui montre que finalement il n'est plus dupe, quoi.
Absolument. Frédéric, cette dissolution, les Français comprennent aujourd'hui que c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce sont bien sûr les conséquences de cette dissolution.
On arrive le 9 décembre prochain aux 6 mois de cette annonce. Les Français en parlent énormément dans les enquêtes qualitatives. Je pense à celle du JDD où on leur demande quelles sont vos raisons de satisfaction, de mécontentement à l'égard du président. La dissolution est omniprésente. C'est l'acte lourd absolu. Et c'est l'acte de rupture absolue entre Emmanuel Macron et les Français qui a dissous son image dans la dissolution. J'ai rarement vu une décision prise par un décideur politique ou économique, prenant un décideur politique, prenant un président, un premier ministre, qui a suscité non pas un rejet. Le CPE, il y avait du rejet. La réforme Juppé de 95, on peut trouver beaucoup. La loi travail ou la déchéance pour François Hollande, après une adhésion très forte. Là, on est sur une incompréhension. Les Français ont jugé l'acte irrationnel, irréfléchi, irraisonné, dangereux, multiplicateur ou amplifiant l'incertitude, le calendrier, quelques semaines avant les Jeux Olympiques et l'année des millésimes et des fiertés françaises. Et Emmanuel Macron continue à le payer. C'est l'acte lourd absolu. Et les Français, c'est ça qui est intéressant. On parle tout le temps parce qu'ils ont compris que toutes les difficultés, cette assemblée coupée en trois, cette difficulté à former un gouvernement, le fait que la classe politique soit dominée par les deux extrêmes, LFI d'un côté et RN de l'autre, et la chute de Michel Barnier, et sans doute la chute de plusieurs et futurs gouvernements, vient de cet acte complètement fou, je reprends les termes des Français, du 9 juin au soir.
Oui, alors on va écouter un deuxième extrait, c'est la réaction de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
Plus une information, on sent que la décision est prise, après il donne la parole aux uns et aux autres, et moi je ne souhaite pas prendre la parole parce que je souhaite avoir un entretien spécifique avec le président de la République en tant que président de l'Assemblée nationale. Cet entretien, je l'ai quelques minutes après avec le président de la République et nous avons un échange tous les deux sur la décision, sur les raisons pour lesquelles il pense qu'il faut dissoudre et moi j'essaye de lui expliquer les raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas dissoudre et je n'arrive pas à le convaincre.
Voilà, donc il prévient au dernier moment, il ne concerte pas en tout cas.
Il y a une discussion là-dessus d'ailleurs avec le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Alors, est-ce qu'au terme de la Constitution, il les a consultés ou il les a mis devant le fait accompli?
Normalement, je crois que c'est l'article 12, on doit consulter le Premier ministre.
Ils doivent être consultés. Alors, apparemment, Yann Braun-Pivet dit qu'au bout du compte, elle a été consultée, mais la décision était quand même prise. Tandis que le président du Sénat dit « j'ai quand même été pas… »«
J'ai pas très été très regardant. »«
J'ai pas été au fait, j'aurais dû protester, etc. » Mais Laurent Fabius a dit que comme ils se sont tous rencontrés, ça peut passer. Il n'y a aucune raison qu'on ne dise pas qu'il n'y ait pas d'échange entre eux.
Moi, Mme Cotta, je ne sais pas si au bout de votre enquête, est-ce que vous avez compris? Parce qu'au fond, qui c'est qui a compris cette décision? Parce qu'il y a Yael Braun-Pivet dit qu'il a donné des arguments, mais nous, il ne nous a jamais donné. Mais on ne sait pas pourquoi il a pris cette décision.
Si, on voit bien qu'il avait peur, qu'il avait peur d'une motion de censure à l'automne pour commencer, l'année. Et que donc, il s'est dit, faisons la motion de censure, tout ça, et je vais prendre tout le monde de court. Et il a plaisanté en disant, je vais leur lancer une grenade entre les jambes. On sait qu'il a dit ça. Donc, il était à la fois confiant dans son étoile, comme disait François Hollande, et à la fois, il s'est dit, c'est un coup de poker, mais j'en sortirai gagnant. C'est ce qu'on appelle une dissolution de confort. Et comme le disent les spécialistes, jamais les dissolutions de confort n'ont
apporter, non, non, apporter le confort.
En profiter à celui Jean-Marie, Laurent Geoffrin, dans son édito, Laurent Geoffrin, qui est souvent sur ce plateau, dit dans le fond qu'Emmanuel Macron, c'est le Jupiter de la boulette, et errare diabolicum. Est-ce que Emmanuel Macron va encore se tromper là sur le choix du Premier ministre? C'est la question que tout le monde se pose.
Oui, c'est la question que tout le monde se pose, parce que maintenant, tout le monde a à peu près compris comment il fonctionne, c'est-à-dire autour de lui-même, exclusivement de lui-même. Et donc, ça peut le conduire à des erreurs lourdes. Hein. Ce qui est le plus dramatique dans cette situation, où encore une fois, les institutions sont en cause. Et donc, les institutions, c'est quand même l'arbre qui tient l'ensemble de la société. Hein. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Et au lieu de réfléchir à une 6e République, il vaut mieux chercher à consolider la 5e. Parce qu'on voit là que, de quel prix on va payer le peu d'incertitude qu'il y a. Donc, voilà, c'est... Après... Quelle sera sa capacité de... Surtout qu'on est dans une période où le front de l'Est, avec la Russie, le front du Proche-Orient, le front européen, l'Asie. L'arrivée bientôt de Donald Trump, en dehors de sa visite pour la réouverture de Notre-Dame, qui menace quand même l'Union européenne d'une guerre commerciale, tout cela concourrait à l'idée qu'il faut un pôle de stabilité. Et jusqu'à présent... Le drame, c'est que jusqu'à présent, le pôle de stabilité aux yeux du reste du monde existait, et c'était la France, notamment grâce à ses institutions. Et voilà que ce pôle disparaît, et disparaît par la volonté d'un homme qui se contemple lui-même. Mais on en avait parlé déjà, moi je suis assez saisi par une chose. Quand vous êtes en fonction, vous découvrez vos fonctions, en règle générale, vous les appréhendez et vous vous améliorez. Et là, j'ai l'impression, et beaucoup de présidents sont passés par là, les débuts de François Hollande ont été très difficiles, les débuts de Nicolas Sarkozy ont été très difficiles, et petit à petit...
On commence toujours par un stage.
Oui, et petit à petit, etc. Mais là, on a l'impression qu'il désapprend, il a désappris. Il a désappris à présider. Ouais. Et donc ça, c'est assez dramatique. Et il a désappris parce que son champ d'observation et son champ de contentement... est totalement tourné vers lui-même.
Alors, Frédéric, on sait que Emmanuel Macron donc, va inaugurer l'ouverture de Notre-Dame samedi. Est-ce qu'il doit compter sur une intervention divine pour lui sauver la mise? Bon, c'est une blague, évidemment. Et peut-être sur ce que disait Jean-Marie, est-ce que vous pensez que les ferments de la détestation des Français pour Emmanuel Macron viennent aussi de tout ce qu'a décrit Jean-Marie, c'est qu'il il a corrigé au début, il corrigeait, et là, il s'enferre dans les erreurs.
Oui, il y a bien sûr cette dissolution qui, comme l'a dit Catherine, n'est absolument compris par personne. On n'est pas sur le rejet, on est sur l'incompréhension. On est passé du président insupportable au président insaisissable. Il y a aussi ce sentiment qu'il est complètement déconnecté du réel, avec une triple critique qui est née de cette non-campagne présidentielle, qui bien sûr...
Et de non-campagne législative.
Oui, existait lors du premier quinquennat, qui a été, si je puis dire, enraciné ou exacerbé par cette réforme des retraites. Un président, et les Français lui disent, vous ne nous connaissez pas, vous ne nous écoutez pas, vous ne nous comprenez pas. Et effectivement, il y a les ferments d'une... Le mot est dur, détestation. Nicolas Sarkozy, il y avait aussi de la virulence, il y avait de la haine, mais en face, il y avait du ressort. Nicolas Sarkozy avait des fans absolus, avait des ferments de confiance très forts, ce qui explique sa très bonne campagne présidentielle de 2012. François Hollande, il y avait également à un moment un rejet très fort, mais il y avait une sympathie pour le bonhomme, si je puis dire, et puis des moments où il a beaucoup rendu fiers les Français. Je pense à son attitude pour les attentats de janvier et de novembre 2015. Pour Emmanuel Macron, aujourd'hui, je suis prudent, mais je ne vois pas d'éléments de rebond à court terme dans sa relation avec les Français.
Et juste un
d'autant
mot.
Que les problèmes, d'autant que, comme l'a dit Barnier hier, les problèmes restent les mêmes.
Oui.
C'est-à-dire, moi, je veux bien que n'importe qui arrive au pouvoir, mais avec la dette qu'on a, si on ne s'inscrit pas dans certains chemins, il est évident qu'on sort à brève échéance de l'Europe, etc. C'est vraiment important de voir que les problèmes restent les mêmes, quels que soient les gens qu'on mettra...
Et pour juste une dernière question assez courte, s'il vous plaît, Michel, par rapport à ce que disait Frédéric sur les autres présidents. Certains Français détestent Emmanuel Macron, mais regardez, Chirac, les Français ne pouvaient plus le supporter à la fin de son mandat. Nicolas Sarkozy aussi. François Hollande était affublé de surnoms ridicules.
Et Mitterrand.
Finalement, à un moment, les Français n'en peuvent plus de leur monarque.
Oui, et puis de plus en plus, parce que quand même... Et Chirac et Mitterrand ont été réélus deux fois, vous me direz. Emmanuel Macron aussi.
À propos de réélection, je pense que le déclic dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est sa réélection. À partir du moment où il est réélu, il considère qu'il est infaillible. Mais il
alors
devrait savoir que seul,
être élu, hein,
voilà, savoir que seul le pape est infaillible, même si le pape refuse de venir.
Merci, merci.
Non, mais Trump est peut-être plus important
aller en Corse,
que le pape.
Oui.
On attend Véronique Ressoult, enfin, qui est là, et qui va nous parler de eh bien, ce que disent les réseaux sociaux. Bonsoir ma chère Véronique.
Bonsoir.
De Backbone Consulting. Donc, bonsoir. Pardon pour le retard.
Mais du coup, on va faire vite.
La mission de censure sur les réseaux.
Oui, alors en fait, on a fait un sondage donc, pour le Figaro dans lequel on a posé cette question sur qui est responsable et donc globalement, on regarde tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, il ne va pas y avoir de grosses surprises qui est responsable de cette situation et de l'instabilité. Eh bien, 46% des Français considèrent que c'est Emmanuel Macron et le camp présidentiel, 29% l'ensemble des forces politiques et moi, j'aime bien cette idée du 4% parce que globalement, ça résume assez bien qui est Monsieur Barnier n'est pas jugé responsable en soi et c'est une logique de continuité. Globalement, les Français sont plutôt inquiets et quand je dis qu'ils sont inquiets, ils se demandent même s'ils parlent la même langue comme le titre du livre de Frédéric Dabi. Voilà, est-ce qu'on parle vraiment la même langue ? Parce que les postures politiques des uns et des autres ont fait que même le constat n'est pas si évident. Vous disiez la situation est grave, mais en fait, les Français ne savent plus vraiment. Et donc, comme il y a un responsable dans leur esprit et qu'ils sont inquiets, il y a un hashtag qui monte. Alors, 70 000 mentions, c'est pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique. C'est-à-dire, en fait, quelque part, c'est pas tant qu'ils veuillent la démission d'Emmanuel Macron, parce que quand on regarde les messages qui sont associés, bien souvent, ils se disent, bon, il est peu probable que ça arrive. En tout cas, on ne sait pas. Mais c'est plus le sentiment que changer de Premier ministre ne va pas changer grand-chose. Et donc, ils ont envie de sortir de cette situation. Donc, c'est plus pour que les choses avancent. Et donc, comme ils ont l'impression que de changer de Premier ministre, ça n'aura pas forcément une incidence folle, même quand on leur pose la question, on voit que globalement, peu de gens ont grâce à leurs yeux. Alors si, M. Barnier est finalement celui qui serait
le moins
mal.
Mais c'est terrible, il n'y a personne qui dépasse même
40%. Personne, c'est pour ça qu'on voit bien que globalement...
C'est même un anti-classement, quoi.
Oui, ils considèrent que bon, en fait, le sujet, c'est pas un nouveau Premier ministre qui changera des choses. Et dans le fond, M. Barnier est peut-être le moins pire si on rentre dans cette logique.
15-9 est jeu égal.
Voilà, et vous avez une seule femme, comme d'habitude, là, qui est Lucie Castet. Voilà, ça, c'est dans le classement en soi. Alors, il y a M. Barouin qui ressort. On se dit, mais pourquoi M. Barouin ? Ouais. Écoutez, en fait, c'est un nom habituel qu'on sort quoi qu'il arrive, quel que soit.
Oui, comme Bayrou. En fait.
Voilà. Au point, Bayrou. Vous avez
non,
même
Bayrou est dans l'action politique, tandis que
voilà. Barouin... Vous avez même un compte Barouin Premier ministre qui existe, qui est là, qui existe même depuis 2014, pour vous dire à quel point c'est... Voilà,
c'est un rituel.
On va le voir. Ça fait partie de... C'est ce qu'on appelle un compte X. Alors, il n'y a pas grand monde qui le suit, mais bon, globalement, voilà, régulièrement, il ressort. Donc, ça fait partie des meubles. Et il y en a...
Vous n'avez pas testé Manuel Valls.
Et ben, mais si, ça sûr. Et alors, figurez-vous que je me suis dit, bon, on ne peut pas faire sans mettre le même de Manuel Valls. Donc, vous l'avez, le fameux même. Hop, un boulot qui est demandé, qui est proposé. Hop, j'arrive. Mais j'ai une nouvelle assez triste à vous annoncer. Ce même diminue. Il est de moins en moins utilisé. Il n'a pas le même succès avec le temps. Mais quand même, je vous l'ai mis. En revanche, ce qui était un vrai sujet, c'est à l'étranger, on en a... beaucoup parlé. Alors, je vous ai mis évidemment la une de The Economist.
Ils sont excellents. Vraiment, ils font toujours des unes incroyables.
Alors, voilà, le fameux bouche de métro avec le mot de Cambronne. La réalité, c'est que en fait, à l'international, alors, nous-mêmes, nous sommes un peu perdus, mais là, ils ne comprennent vraiment pas. Ils sont inquiets. Les Européens sont inquiets. Et globalement, cette une résume assez bien ce que l'international se dit en nous regardant.
Alors, on va parler vous voulez parler du président sud-coréen. Je vais vous laisser dire son nom,
parce que sinon
je vais bugger.
Bah, moi aussi, j'ai décidé que je vous dirais le président sud-coréen.
Voilà. qui, lui, avait instauré la loi martiale mardi, et celle-ci a été rapidement levée par l'opposition. Il y a plus de chances, peut-être, que
alors,
M. Barnier.
Alors, en fait, je voulais vous faire un petit retour, parce qu'on parle toujours des réseaux sociaux. Dites-vous que les Coréens, il y a 92% de la population qui est sur les réseaux sociaux. C'est un vrai sujet chez eux. Donc, c'est un contre-pouvoir assez colossal pour vous donner une idée des volumes. Alors, évidemment, vous allez me dire « caca ». Talk, vous ne connaissez pas. Non, c'est un réseau social que nous n'avons pas. Mais pour vous donner une idée de la force, c'est 85% de la population est sur cette application, sur ce réseau social. Donc tout le monde en parle.
Internet aussi.
Ça a été les premiers sur Internet. C'est vraiment un sujet pour eux, extrêmement important. Vous avez à peu près presque toute la population coréenne qui a Internet d'ailleurs. Instagram est aussi très très présent. Donc ça veut dire que en fait, ce sujet a été énormément discuté sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de fausses informations. Il y a eu aussi beaucoup de mobilisation pour les marches. Il y a eu des symboles, parce que Internet, ce sont des symboles. Je vous montre celui-ci. Il y a foultitude des détournements. C'est un film où, en fait, le président coréen remplace le vrai comédien. Qu'est-ce que ce film? Eh bien, en fait, ce film, ça raconte un coup d'État militaire en 1979, et c'est le film qui a été le plus vu en Corée en 2023. Et donc, ce détournement raconte énormément de choses pour eux. Donc, ça, c'est incroyable à quel point il y a eu mobilisation. Et comme on va bientôt terminer et que je voulais vous ramener cette crise coréenne à la blagounette qui circule sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron serait-il tenté de copier le président sud-coréen qui a appliqué la loi martiale?
Voilà, c'est Mister Bean, non? C'est Mister l'article 16. Il y a l'article
voilà.
16.
Comme ça fait partie des rumeurs qui circulent, voilà, évidemment, ça a été repris.
D'accord. Donc, qui veut prononcer le nom du président sud-coréen?
Alors, moi, j'avais peur d'être ridicule, donc je me suis dit que j'allais rester sur le président sud-coréen.
Je vois que personne ne l'a
demandé. En régie, on a essayé de s'exercer et on n'est pas certain de la prononciation.
Ça va, je ne suis pas la seule.
C'est Yoon Seok-yul. C'était ça. D'accord. Mais je ne suis pas certaine de mon accent. Voilà.
Parfait. Merci à tous. Merci. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Frédéric. Parlons-nous la même langue aux éditions. Tous la même langue. Aux éditions de l'Aube. Michel Cotta, Les derniers grands chez Plomb. Et puis, bien sûr, votre documentaire avec Patrice Duhamel, Jean Garrigue et Pauline Palier, ce soir, 22h15, sur France Télé, sur la dissolution, l'histoire d'un séisme. Merci à tous, merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite.